Ah, bien le bonjour, Jacobs. Vous savez quoi, mon cher? Je viens d'apprendre quelque chose de tout simplement fascinant.
Oh, ne me dites pas qu'il s'agit encore de vos tissus du Dérocore. Je ne comprends toujours pas ce que ça vient chatouiller chez vous. Hein. Enfin bref, qu'avez-vous trouvé de génial là-dedans cette fois?
Un de nos compatriotes, que je salue pour sa bravoure et son abnégation, est détenteur du record du temps passé assis sur des toilettes.
Oh non, vous touchez le fond là, Peters.
Allez, allez, faites-moi plaisir. Combien de temps il a tenu, à votre avis?
Je ne sais pas, 30 heures.
J'en étais sûr, vous êtes loin du compte. C'est 138 heures et 30 minutes son record, l'équivalent d'un peu moins de 6 jours complets sur les toilettes. C'est fascinant, non?
Comme vous dites, hein, autant vous m'étonnez par votre capacité d'analyse, mais parfois, je vous le dis, hein, Peter, ça vous me surprenez par la vacuité de vos conversations.
Oh, et vous savez quoi? Il n'est pas prêt d'être détrôné. Toilette, trône, vous suivez?
Oui, je suis, mais enfin, si vous ajoutez des jeux de mots douteux, c'est au-dessus de mes forces. Hein. S'il vous plaît, chers collègues, reprenez-vous un peu de sérieux et écoutons plutôt notre répondeur, si vous le voulez bien.
Vous avez raison, c'est l'heure de se remettre en selle.
Oui, vous continuez.
Non, là, pardon, c'était involontaire. Bon, bref, je lance le répondeur.
Vous avez un nouveau message.
Oui, ça enregistre là? C'est bien le répondeur du bureau des complots? Tout d'abord, merci pour votre travail. Hein. Je vous écoute tous les jours et grâce à vous, je commence à avoir moins peur de toutes ces bêtises que je peux voir sur les réseaux sociaux. Mais voilà, mon mari, Nicolas, il a vu un ovni dans le ciel un soir et personne ne veut le croire, il n'ose plus en parler. Je me demandais si vous pouviez nous en dire plus sur les soucoupes volantes. Nicolas, il y croit. Il a acheté une lunette astronomique pour voir s'il y a des bases sur la Lune. Il m'inquiète un peu, je dois dire. Merci de faire quelque chose pour nous. Au revoir. Ah oui, et c'était Sophie de Molenbeek.
Eh ben, il en a de la chance, son mari, d'avoir vu un ovni. Vous savez que c'est mon rêve.
Oui, enfin, visiblement, tout ça a l'air surtout d'inquiéter Sophie. Hein. Faut dire que l'idée d'une colonisation secrète de notre planète par des êtres venus d'ailleurs, eh bien, elle est très vivace hein, sur les réseaux.
À qui le dites-vous? Je suis ça de très près. L'hypothèse extraterrestre est une théorie à la fois rassurante, car on ne serait pas seul dans l'univers, mais aussi angoissante, car il y a tellement de mystères autour des ovnis qu'on a l'impression que les gouvernements nous cachent la vérité.
Oui, je pense que c'est bien le sens du message que nous a laissé notre auditrice. Alors, par quoi commençons-nous?
Eh bien, je ne sais pas, c'est un vaste sujet. Les observations d'OVNI existent, ça c'est indéniable. Des témoins affirment avoir vu des objets volants non identifiés, fréquemment et partout dans le monde. La vraie question, c'est de savoir si ce sont des engins spatiaux d'origine extraterrestre qui viennent nous rendre visite ou pas.
Oui, c'est là que le doute réside, hein, car si une explication rationnelle est souvent apportée aux observations, il resterait énormément de phénomènes mystérieux et donc non élucidés.
Les observations précises, voire inquiétantes, se comptent par milliers. Alors, commençons peut-être par remonter au premier témoignage concernant les ovnis.
Le bureau des complots.
Nous pourrions remonter à l'aube de l'histoire et chercher dans les écrits anciens des événements inexpliqués observés par nos lointains ancêtres. Mais la liste serait presque infinie. Entre les comètes et les météorites qui traversent régulièrement notre atmosphère, le ciel a toujours été le théâtre d'événements étranges. Alors peut-être, Peters, commençons directement au XXe siècle, quand la description des ovnis est devenue plus précise.
Bonne idée. L'événement fondateur concernant les ovnis se situe durant la Seconde Guerre mondiale avec les Foo Fighters. Et si ce nom ne vous évoque que du rock américain, sachez que le groupe s'est justement inspiré de ces phénomènes étranges observés dans le ciel pendant la guerre. Les Foo Fighters, traduction les chasseurs fantômes, décrivent en fait des boules lumineuses observées par les aviateurs des deux camps durant le conflit mondial.
À partir de 1942, de nombreux membres d'équipages britanniques, américains, mais aussi allemands ou japonais, affirment en effet avoir été escortés dans les airs par des sphères lumineuses lors de leur mission de combat.
Des sphères qui se dirigeaient de manière, dit-on, intelligente. Plusieurs pilotes, pris de panique ou croyant avoir affaire à une technologie secrète ennemie, ont essayé d'abattre ces objets volants, mais sans succès.
Et certains enregistrements de l'époque ont montré ces phénomènes et les témoignages de certains équipages de bombardiers engagés dans le ciel allemand font état de véritables escadrilles en formation.
Plus étonnant encore, les témoignages étaient tellement nombreux qu'une commission d'études a été créée en Angleterre par la Royal Air Force.
Et alors?
Alors rien, hein. La commission a été officiellement close en 1944, sans conclusion claire. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces Foo Fighters ont nourri l'idée tenace que les nazis disposaient d'une technologie secrète, restée introuvable jusqu'à aujourd'hui.
Mais vous connaissez la suite, hein. La seule technologie bien attestée était du côté des alliés, avec la bombe atomique. Fin de la guerre, et fin des Foo Fighters. Nous sommes maintenant 2 ans après la fin de la guerre. Et le phénomène OVNI va prendre une nouvelle dimension avec les observations d'un Américain, un certain Kenneth Arnold.
Kenneth Arnold, c'est un entrepreneur et un aviateur qui vient de passer la trentaine. Il dirige une entreprise qui vend du matériel pour lutter contre les incendies. Pour cela, il voyage dans son propre avion dans toute la région nord-ouest des États-Unis.
Arnold participe même à des opérations de recherche et de sauvetage dans sa région. Il est considéré comme un pilote qualifié et expérimenté avec plus de 9000 heures de vol. Un homme que l'on peut qualifier donc de sérieux.
D'ailleurs, le voilà qui décolle avec son petit avion en cette belle journée du 24 juin 1947.
Il est maintenant en altitude de croisière. Le temps est clair, le ciel est bleu au-dessus des montagnes de l'État de Washington. De là-haut, la vue sur le mont Rainier est exceptionnelle. Un vrai moment de plaisir pour le pilote.
Il est 15h et tout à coup, Arnold est aveuglé par un flash lumineux qui envahit son cockpit. Ne comprenant pas de quoi il s'agit, il pense d'abord une explosion dans les environs. Mais ce n'est pas ça. C'est alors qu'il distingue au loin 9 objets volants se déplaçant avec précision dans les airs à une vitesse hors du commun. Arnold n'en croit pas ses yeux.
Les déplacements fulgurants de ces objets intriguent le pilote. Il connaît la région comme sa poche et en s'appuyant sur 2 sommets bien identifiés, il évalue leur vitesse, 2600 km/h. Plus de 2 fois donc la vitesse du son. Une performance tout simplement hors de portée à l'époque.
De retour au sol, Kenneth Arnold sonne l'alerte. Il a vu quelque chose d'incroyable dans le ciel. Son histoire fait rapidement le tour de la ville, de la région à la radio locale. Il confie ceci. Je cite, « Il ne volait pas du tout en formation conventionnelle comme des avions militaires. Il semblait onduler comme serpenter dans l'air au-dessus du sommet des montagnes. »
Un des journalistes qui a recueilli l'histoire incroyable de Kenneth Arnold va utiliser pour la première fois le mot « flying saucer » pour décrire ces objets. Traduisez « secoupe volante ».
Une expression qu'Arnold, en réalité, n'a jamais prononcée. Hein. Lui parlait plutôt de soucoupe ricochant sur l'eau pour décrire le mouvement des objets. Une image qui, avec le temps, a été mal comprise et a donné naissance au terme tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Exact, hein, je cite ces mots. Ces objets semblaient s'incliner et ils réfléchissaient le soleil comme un miroir. Ça vous éblouissait, littéralement. Hein. Et c'est un grand mystère pour moi.
Alors, qu'a-t-il vu exactement? Ce n'est pas un affabulateur, mais un homme qui a la tête sur les épaules, en qui on fait confiance. L'observation d'Arnold va faire l'objet d'une dépêche de l'Associated Press, et à partir de ce moment, c'est une vraie info.
Oui, ce qui n'aurait pu être qu'un simple fait divers estival va provoquer un véritable séisme en Amérique. Tout à coup, c'est comme si un verrou avait sauté, que la parole pouvait se libérer. On va assister alors à une vague de témoignages et d'observations massives, et ce, dans tout le pays.
4 jours après qu'Arnold ait vu ses désormais célèbres soucoupes volantes, 2 pilotes et 2 officiers de renseignement racontent avoir vu un objet étonnant effectuer des manœuvres impossibles au-dessus de la base aérienne de Maxwell à Montgomery, dans l'Alabama.
Et le même jour, un pilote de l'US Air Force aperçoit une formation de 5 appareils non identifiés près d'un lac artificiel dans le désert du Nevada.
Ce n'est pas fini, 3 jours plus tard, c'est un pilote qui observe une formation de soucoupes volantes pendant 45 minutes. On recense des centaines, des milliers de témoignages en quelques semaines.
Et notamment sur la commune de Roswell, au Nouveau-Mexique.
Ah, cette fameuse affaire que nous allons évidemment revisiter, elle va d'ailleurs servir de fil rouge à toute notre enquête sur les ovnis. Alors, dans ce fameux épisode de Roswell, commenté, adapté en film, en série, fantasmé 1000 fois, tout commence dans un ranch, n'est-ce pas, Jacobs?
C'est ça, le ranch d'un certain William McBrazel. Nous sommes le 8 juillet 1947, lorsque ce fermier avec sa fille Bessie découvre sur ses terres d'étranges débris éparpillés sur environ 80 mètres de large et 1 km de long. Intrigué par l'aspect des matériaux d'allure métallique et brillant, Boisel contacte le shérif de Roswell, lequel avertit la base militaire la plus proche.
Une équipe est envoyée sur place. Et là, coup de tonnerre. Le porte-parole de la base militaire de Roswell publie un communiqué de presse affirmant que l'armée a récupéré un disque volant écrasé près d'un ranch.
Mais l'armée va faire immédiatement machine arrière. Est-ce que le porte-parole sait faire remonter les bretelles? Mystère. En tout cas, dès le lendemain, un rectificatif tombe. Ce n'était pas un disque volant, juste un banal ballon-sonde.
Et l'affaire est enterrée pour 30 ans. Mais on y reviendra, parce que Roswell, ce n'est pas fini. Ce qui est intéressant, c'est que dès le départ, l'armée cafouille. Elle tergiverse, corrige, se contredit. On sent déjà qu'avec les ovnis, la communication va être tout sauf limpide.
Exactement. Et pour le prouver, j'aimerais que l'on parle un instant de ce pilote de l'armée de l'air, le capitaine Thomas Mantel, qui se tue en poursuivant un ovni. Je pense que c'est une très bonne illustration de ce que vous venez de souligner, Peters.
Le 7 janvier 1948, un objet volant est repéré par des civils dans le ciel du Kentucky. Alerté, le personnel de la base aérienne la plus proche procède à des observations et confirme rapidement la présence d'un objet volant non identifié. Le capitaine Mantel et 3 autres pilotes sont envoyés à sa poursuite pour l'intercepter.
Les 4 avions arrivent sur zone et repèrent tout de suite l'ovni. L'objet va très vite, se laisse rattraper, puis repart. Ce petit jeu dure un moment et puis l'ovni prend d'un coup beaucoup d'altitude. Trop pour les avions des militaires qui renoncent à le poursuivre.
Sauf le capitaine Mantel, qui, au mépris du danger, ne lâche pas et suit le mystérieux aéronef dans les cieux. Il monte, il prend de l'altitude sans faiblir. Le pilote veut savoir ce qu'il a devant les yeux.
Un courage qu'il va payer de sa vie. Après avoir signalé à la radio que l'objet semblait de grande dimension et métallique, la communication se coupe. Et on retrouve l'épave de l'avion du capitaine Mantel, 145 km plus loin. Dans quelles circonstances est-il mort? Cela reste une énigme.
Enfin, pas pour tout le monde. L'US Air Force va affirmer que le pilote a confondu l'OVNI avec la planète Vénus, ce qui l'aurait amené à haute altitude où il aurait manqué d'oxygène.
En tout cas, en réaction à ces événements et aux nombreux témoignages qui s'accumulent, les autorités américaines vont réagir. Une première commission d'enquête sur les ovnis est lancée à la fin de l'année 1947, le projet SIGN.
Cette commission est composée d'un militaire, d'un ingénieur et d'un expert en nucléaire et balistique. C'est historique car ces hommes vont quelques mois plus tard dans leur rapport et pour la première fois officiellement laisser la porte ouverte à l'hypothèse extraterrestre.
Une conclusion qui, une fois de plus, ne plaît pas du tout à la hiérarchie. Résultat, le projet SIGN est dissous dans la foulée, et à la fin de l'année 1948, il est remplacé par le projet Grudge, dont la mission est limpide, enterrer l'hypothèse extraterrestre, tout nié en bloc.
Le projet Grudge est lui aussi placé sous commandement militaire. Et cette fois, la ligne est claire, chaque observation d'OVNI recevra son explication rationnelle, parfois un peu trop, comme avec le coup de la planète Vénus, quoi. Des explications qui, disons-le, peinent souvent à convaincre.
Mais voilà, le ver est dans le fruit et le doute s'installe. Les autorités ont-elles vraiment volonté de faire toute la lumière sur les ovnis? C'est ce que nous allons voir dans un instant.
Une question sur les conspirations?
Une chose est claire. Depuis les premières observations d'OVNI, les autorités, et en particulier l'armée, s'emploient à éluder le sujet. Et de cette réserve naît peu à peu une méfiance. Et justement, il y a un homme qui va incarner cette défiance face au discours officiel, son nom, Donald Keough.
Donald Keough est né dans le Midwest américain à la toute fin du 19e siècle. Depuis son plus jeune âge, il suit l'évolution de l'aviation et ça le passionne. Très jeune, il devient pilote dans l'armée, l'un des moyens les plus rapides pour prendre les commandes d'un appareil.
Mais tout ne va pas se passer comme prévu pour lui. Car lors d'une mission au-dessus des Philippines, il va avoir un accident, dont il sort miraculeusement vivant, mais blessé. Et il est contraint de quitter les Marines.
Heureusement pour lui, il a eu le temps de se faire quelques relations dans le milieu de l'aéronautique. En 1927, il organise la tournée de Charles Lindbergh, le fameux aventurier aviateur connu pour avoir traversé l'Atlantique. Et Donald Keough écrit son premier livre relatant cette aventure. C'est un succès.
Il prend goût à l'écriture et Keough à l'imagination fertile. C'est ainsi qu'il travaille ensuite à la rédaction de récits fantastiques dans des magazines bon marché. L'un de ses employeurs va alors le mettre sur la piste des ovnis.
Aviateur, ancien marine, Keough a des contacts un peu partout. Ce réseau lui permet de mener ses investigations avec une redoutable efficacité, et quand il boucle son enquête, il revient à la rédaction les bras chargés de témoignages, pour le moins croustillants.
L'article de Kyo est publié dans le numéro de janvier 1950 de la revue True, la vérité. Intitulé « Les soucoupes volantes sont réelles », il fait sensation. Il se dit à ce moment que l'article de Kyo est l'un des articles de magazine les plus lus et les plus discutés dans l'histoire.
Kyo surfe sur ce succès et publie en 1950 un livre reprenant le même titre que son article, « Les soucoupes volantes existent », et cet ouvrage va se vendre à plus d'un demi-million d'exemplaires. Alors Peters, quelle est donc sa thèse ?
Attendez, alors, eh bien, j'ai évidemment le livre ici. Vous allez voir, c'est assez limpide, et ce, dès les premières pages. Hein. Vous voulez que j'en lise un passage ?
Eh bien, j'allais vous le demander, en effet.
Alors, Donald Kyo écrit ceci. « Pendant 6 mois, j'ai travaillé avec d'autres investigateurs pour résoudre le problème des disques. Nous avons vérifié une centaine de rapports d'observation, croisant fréquemment les agents du FBI, des experts en fusée, des astronomes, des officiels de l'armée de l'air et des pilotes nous ont donné des indices qui nous ont dirigés vers une solution stupéfiante. Beaucoup de personnes intelligentes, y compris les scientifiques, pensent que les soucoupes contiennent des occupants d'une autre planète qui nous espionnent. »
Vous me direz, dès le titre, il avait annoncé la couleur, hein, les soucoupes volantes existent. Enfin bon, ce récit est proprement stupéfiant, et Kyo détaille beaucoup d'histoires hein, au fil des pages, et il conclut que l'armée de l'air sait que les soucoupes volantes observées ces dernières années sont bel et bien extraterrestres. Mais il affirme que les rapports ont été falsifiés pour éviter la panique publique.
Dites-donc, Jacobs, voilà donc le début d'un complot. Kyo devient une star et popularise l'idée que nous sommes visités par des êtres venus d'une autre planète. Et ce qui impressionne, c'est le sérieux de son travail.
Et son obstination également, hein, parce qu'il publie un deuxième livre en 1953, intitulé « Soucoupes volantes de l'espace », qui repose en grande partie sur des entretiens des rapports officiels validés par l'armée de l'air.
La quatrième couverture est même signée par l'attaché de presse du Pentagone, qui décrit Kyo comme, je cite, « un journaliste juste et responsable », même s'il se dit sceptique hein, concernant l'hypothèse extraterrestre.
Kyo avance aussi une autre théorie. Selon lui, les extraterrestres nous observent. Et si les apparitions d'OVNI se sont multipliées brusquement à partir de 1947, ce n'est pas un hasard. Ce serait en fait une réaction directe à l'utilisation de la bombe atomique en 1945.
Intéressant. Kyo fonde alors, avec des scientifiques et des anciens militaires, la première association d'ufologie. En son sein, on trouve du beau monde, hein. Citons notamment l'ancien directeur de la CIA, Roscoe Henry Hillenkoetter.
Cette association prend le nom de NICAP, acronyme de Comité National d'Enquête sur les Phénomènes Aériens, et leur message est sans ambiguïté. Hein. Les ovnis sont la manifestation de la présence d'une intelligence extraterrestre sur notre planète.
Un mot sur cette Hillenkoetter quand même. Cet ancien de la CIA joue en fait un rôle ambivalent dans les réunions avec ses spécialistes. Il cherche à la fois à discréditer les cas d'atterrissage et de crash d'OVNI en estimant qu'il n'y a rien à creuser pour eux. Mais de l'autre, il encourage la collecte d'informations sur le sujet.
Oui, ça serait une sorte de top. Hein. Grâce à lui, les observations recueillies à la source par le NICAP arrivent sans frais à la connaissance des services de renseignement américains avant même d'être rendues publiques.
Car le NICAP de Donald Kyo communique beaucoup, notamment par son bulletin mensuel, The UFO Investigator, qui est distribué dans tous les États-Unis. Le NICAP va, grâce à lui, avoir des milliers de membres, 5 000 en 1957 et jusqu'à 14 000 dans les années 60.
Ça en fait un des yeux levés vers le ciel à l'affût du moindre engin suspect. La visite extraterrestre, vous le comprenez, fascine et Hollywood s'en empare. En 1951 sort le premier film de science-fiction.
Nous venons en émissaire de paix et de bonne volonté.
Ce film, c'est le jour où la Terre s'arrêta. Il raconte l'arrivée d'une soucoupe volante à Washington avec à son bord un extraterrestre accompagné d'un robot qui a un message à délivrer à l'humanité.
Et c'est un bon résumé de ce qui gravite autour de l'imaginaire alien à l'époque. Hein. OVNI, mais aussi menace nucléaire.
Exact, hein, puisque l'extraterrestre livre ce message. Je suis venu vous donner ces informations, la façon dont vous dirigez votre planète ne nous regarde pas, mais si vous menacez d'étendre votre violence, votre terre sera réduite à un tas de cendres. Votre choix est simple, joignez-vous à nous et vivez en paix, ou continuez sur votre voie et exposez-vous à la destruction.
Un film qui est passé à la postérité. Et bien entendu, en tout cas, à sa sortie, ce film cartonne, hein, le sujet des extraterrestres devient de plus en plus populaire.
Avec en petite musique de fond quand même, l'idée que les gouvernements nous cachent la vérité.
Surtout que les manifestations étranges ne s'arrêtent pas.
Ah oui, et ce qui est curieux, c'est qu'elles arrivent par vagues, ces observations. En 1947, en 49, puis en 54, où là c'est dans le monde entier. Hein.
Donc pas seulement aux États-Unis ?
Et non, la vague de 54, elle va même être principalement chez nos voisins français.
Durant 3 mois, en septembre, octobre et novembre 1954, on assiste à une vague de témoignages inédits en France, avec 2000 observations recensées par des spécialistes des ovnis. On parle de vols d'engins mystérieux, de témoignages d'atterrissage avec des traces au sol, 60 observations par jour.
Des rencontres aussi, on décrit des humanoïdes de petite taille, de 1 mètre à 1,20 m, qui ressemblent parfois à des enfants sous des combinaisons de cellophane. Aucun témoignage ne parle en tout cas de comportement de nature hostile. Ces visiteurs de l'espace semblent plutôt bienveillants.
C'est ça, ils viennent, ils repartent dans leur engin. Ils sont parfois nus, hein. On les décrit aussi avec des grandes têtes et des gros yeux. Bref, l'image typique de l'alien qui est dans toutes les représentations depuis.
On entend des civils, des pompiers, des gendarmes raconter ce qu'ils ont vu. Le phénomène touche tout le monde et la presse nationale consacre des articles à ces récits extraordinaires.
Prenons à titre d'exemple l'étonnante histoire de Marius De Wild. Lui, il n'est pas très loin de chez nous, puisqu'il habite à Valenciennes. Écoutez ce document d'époque.
J'ai eu 2 hommes, je vous dis, 2 êtres. Alors c'est là que je pensais...
À quelle distance était-il de vous?
À peu près, vous voyez, pour traverser le chemin, à peu près à 4 mètres.
Sur ce chemin de terre, là?
Sur ce chemin de terre.
4 mètres, oui.
Oui, 4 mètres.
Alors, décrivez-les-nous, ces deux hommes.
Ces hommes, je les vois plutôt petits, à peu près 80 cm à 1 mètre.
Formidable.
Alors aussitôt, j'ai couru là, directement à l'endroit où était l'appareil.
Ici, où nous devons découvrir les traces. Je vois qu'elles ont été entourées de blanc. Ça représente quoi? C'est le polygone de sustentation de l'appareil. Qu'est-ce que c'est?
Moi, je n'ai pas rien. Ah ça, écoutez, ça, je ne pourrais rien vous dire. Hein.
Comment est-elle partie?
Bah, ma